Je suis complètement outrée de ce que je viens d'entendre comme chanson, même si vous n'êtes pas catholique, ce que je ne suis pas du tout, même si vous n'aimez pas ce qui est diffusé effectivement par l'Église catholique, ce que je n'aime pas non plus. Il me semble complètement irrespectueux de diffuser à l'antenne la chanson que je viens d'écouter. Je ne veux pas répéter les paroles qui ont été dites. Je suis outrée et vraiment, Daniel Mermet, je n'écouterai plus votre émission. Voilà. Là, vraiment, je suis outrée et j'aimerais bien avoir votre réponse.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Je suis originaire d'un petit village à côté de Lourdes et je voulais apporter ma modeste contribution au tableau que vous avez fait de la ville. J'avais un copain de régiment, fils hôtelier à Lourdes. Il m'avait raconté l'histoire suivante. Les vieux commerçants à Lourdes disaient à l'époque, si un pèlerin repart avec un centime en poche, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Voilà, ça résume assez bien la philosophie des commerçants de la ville et des habitants en général qui vivent essentiellement de ça. À mon avis, s'il est un ustensile qui symbolise à merveille la ville de Lourdes, c'est bien le tiroir-caisse. Allez, au revoir.
J'ai 70 ans et j'ai fait mon catéchisme. Et puis quand j'étais en classe de catéchisme, une petite amie est venue me prévenir en me disant « Tu travailles trop bien, évite les bonnes notes parce que sinon tu vas monter au clocher. » Alors ça je comprenais pas, elle m'a expliqué ce que c'est que monter au clocher. Elle avait eu de bonnes notes, elle était montée au clocher. Donc c'était une visite exceptionnelle faite par le curé. Et le temps qu'elle montait au clocher, il y a beaucoup de marches pour aller au clocher, eh bien il avait sa main dans la culotte de la petite fille. Alors elle m'a dit « Surtout tu n'en parles à personne. » Tu n'en parles à personne, surtout même pas aux parents, parce que c'est un secret, je te l'ai livré à toi parce que je t'aime bien. Et voilà, alors de ce jour-là, j'ai eu de très très mauvaises notes au catéchisme, et puis je me suis éloignée bien sûr au fur et à mesure des âges de cette pseudo-religion. Voilà, allez et continuez bien, je vous écoute tous les jours.
J'appelle pour laisser un message pour les AMG de Nîmes et des environs, pour leur rappeler que, comme tous les premiers mercredis du mois, ce mercredi 7 avril, les amis de la Bassigie-Suite de Nîmes se retrouveront à partir de 19h au bar des Romblas. Au revoir.
Je suis tous les journaux, hein, et voilà, les journaux télévisés puis les journaux locaux, comme on va dire. Hein, et je m'aperçois que, si vous voulez, si vous regardez un peu tout ce qui se passe à droite et à gauche, ils font donc des comparaisons toujours, évidemment, sur tout ce qui nous entoure, les pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, etc., etc., etc. Or, comme tous les pays qui nous entourent, on sait très bien que en Espagne, c'est 65 ans, en Suède, c'est 65 ans, aux Pays-Bas, c'est 65 ans, et en Pologne, c'est 65 ans. Mais donc, en France, c'est 60 ans, Grèce, 60 ans, Royaume-Uni, 60 ans, Italie, 60 ans. Mais bon, le problème n'est pas tellement là. Le problème, il est que, si les 2,5 millions de chômeurs déclarés, ceux-là, travaillaient, on réinjecterait dans les cotisations retraite à peu près l'équivalent de 12 milliards. Alors vous pensez bien que le problème, il n'est pas d'allonger l'âge du travail, il est de faire travailler les gens. Voilà, si un jour il y avait un débat là-dessus, ça serait très bien, M. Daniel Mermet.
C'est à propos de l'émission sur Lourdes. Qu'est-ce qu'elle pouvait être de mauvais goût? Je ne croyais pas que la libre pensée pouvait s'exprimer de façon aussi désastreuse, on se croirait revenu au scientisme du 19e siècle. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de Lourdes, mais enfin que ce soit fait avec tout de même un peu plus de sérieux, quoi. Alors d'abord, Lourdes, c'est pas un dogme, hein. on y croit ou on n'y croit pas, on est libre. Et puis en plus de ça, ne pas mélanger les marchands d'objets de piété plus désastreux les uns que les autres et les lieux de culte. Allez, au revoir.
De la part de Dominique, Michel, Jocelyne et les autres depuis Boulogne-sur-Mer, c'est un appel à manifestation ce mercredi 7 avril à 11h devant la sous-préfecture contre l'expulsion de 28 familles roms avec femmes, enfants, nourrissons, enfants scolarisés. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Bonjour, le bon Daniel et les auditeurs attentifs de là-bas, si j'y suis. Le 7 avril doit comparaître 6 des anciens salariés des Continental, surnommés les Conti, car l'État leur réclame 63 000 euros. J'ai bien dit 63 000 euros. Je crois que la somme est assez coquette. Comme le gouvernement s'est porté partie civile, ce qui est une première, j'invite tous les auditeurs disponibles, malgré la grève de la SNCF, à se rendre au tribunal de Compiègne en début d'après-midi, je crois que c'est 14h. Voilà, salut.
Imaginez une promenade au parc Adidas. Imaginez une petite balade de printemps le dimanche au parc Carrefour à Paris. Imaginons une petite balade au parc Auchan, au milieu de Paris. Qu'est-ce qu'il était en train de raconter, ce gars-là? Le parc Adidas, le parc Auchan, le parc Carrefour, ça n'existe pas. Eh bien, si, ça existe, non pas en France, mais à Tokyo, car nous sommes à Tokyo. Et à Tokyo, eh bien, on apprend une histoire formidable. C'est l'histoire du parc Miyashita. Le parc Miyashita, c'est un vieux parc au milieu de la ville de Tokyo. Et la mairie a eu une idée formidable, c'est de vendre le nom du parc. C'est-à-dire que le parc Miyashita a été vendu aux enchères auprès de grandes marques internationales. Et c'est Nike qui a acheté le nom du parc. Et le parc va s'appeler parc Nike. Voilà. C'est une façon de faire de l'argent pour une mairie. Pourquoi pas, un jour, la mairie de Paris n'aurait-elle pas l'idée géniale de vendre tous les hauts lieux de notre capitale à des marques? Le parc du Luxembourg devient le parc Carrefour. Les Tuileries devient le parc Auchan, et ainsi de suite. Et pourquoi pas continuer ainsi sur, par exemple, le théâtre? Imaginez la comédie française, Justin Bridoux, pourquoi pas? Puisque ici à Tokyo, il y a déjà un théâtre qui s'appelle le théâtre Sissi Lemon. Sissi Lemon, c'est une marque d'un soda, je ne sais quoi, et ça s'appelle le théâtre Sissi Lemon. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh, je vais au théâtre Sissi Lemon. Or, le théâtre Sissi Lemon, c'est un grand théâtre populaire de Tokyo, dont le nom a été vendu par la mairie de Tokyo, à celui qui donnerait le plus de sous. Mais avouez qu'il y a là quand même quelque chose de formidable. Mais je vous raconte cette histoire parce que c'est un lien avec ce que vous allez entendre aujourd'hui dans la basse si j'y suis. Ce que vous allez entendre aujourd'hui dans la basse si j'y suis se résume à une formule. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Vous l'avez vu venir, et oui, c'est celle qui a dit « la vie est précaire ». L'amour est précaire, pourquoi le travail ne serait-il pas précaire aussi? C'est Laurence Parisot qui pourrait très bien dire un jour « les noms des parcs sont précaires, les noms des théâtres sont précaires » et pourquoi pas un jour la comédie française Justin Bridoux ou Pernod Ricard. Aujourd'hui on s'intéresse donc, vous l'avez compris, à Laurence Parisot qui a fait un rêve. Il n'y a pas que Martin Luther King qui a fait un rêve. Il y a aussi Laurence Parisot qui a fait un rêve, celui d'être réélu en juillet prochain à la tête du MEDEF. Au moment où l'INSEE publie des chiffres tout à fait alarmants, cette fois-ci, sur les inégalités en France, comment les gros grossissent et comment les maigres maigrissent, comment les inégalités s'accroissent et se creusent un peu plus davantage chaque jour dans notre pays, notamment entre les revenus du capital et du patrimoine et ceux des salaires, les salaires étant plus taxés que les revenus financiers, les revenus de la bourse, tout ça va dans le même sens à applaudir et à acclamer par avance ceux qui éliront à nouveau, je l'espère pour elle, Laurence Parisot en juillet prochain. Quoi qu'il en soit, c'est notre sujet du jour, et quoi qu'il en soit, voici encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je me présente, je suis Karima, je vous appelle de Montfermeil. Je fais appel à tous les parents qui sont de Montfermeil pour en fait leur signaler qu'il y aura cet après-midi un Père Noël qui va se déplacer pour venir au secours des professeurs des écoles, donc des enseignants. En fait, le Père Noël sera présent à l'école Jules Ferry et Henri Vallon au niveau de la place des Marguerites à Montfermeil, dans la Villefranche, pour manifester son mécontentement par rapport à la réforme de M. Sarkozy qui veut supprimer la formation des enseignants dès l'année prochaine. Donc en fait, les enseignants seront en poste sans avoir de formation l'année prochaine. Nous serons un grand nombre à être dans ce cas-là. Donc venez nous soutenir à Montfermeil de 16h à 17h. Merci, au revoir.
Traque des sans-papiers, répression des délinquants de la solidarité, une même politique contre les droits. Alors pour en débattre, le mercredi 7 avril, le repère là-bas si j'y suis de Poitiers vous invite. Donc alors du coup, ça se passe donc le mercredi 7 avril, et c'est au café à minima, à 20h30. Donc le minima c'est Grand Rue, 159 Grand Rue, à 20h30, il y aura des projections de films, des intervenants, venez nombreux. Venez très nombreux, salut!
Salut Mermez, salut les AMG. Demain, mercredi 7, au Dersim de Métay, repère de Annecy. Thème du repère, notre pays a besoin de justice et de liberté, avec les représentants de la Ligue des droits de l'homme, une avocate et un membre du syndicat de la magistrature. Début des hostilités à 19h autour d'un verre, possibilité de partager un kebab à la fin des débats. Toujours dans la joie et la bonne humeur.
5 juillet 2005.
Élu et de façon incontestable. La dauphine d'Ernest-Antoine Sellière a raflé les suffrages de plus de la moitié des délégués du MEDEF. Un seul tour de scrutin électronique a suffi. Credo de la nouvelle présidente, moderniser le MEDEF, réconcilier les Français avec l'entreprise et surtout réformer le code du travail.
Là, c'est la couverture du livre Laurence Parisot, Une femme en guerre.
J'ai appris qu'elle était la présidente du MEDEF.
Oh, ça me donne pas.
Oh, j'ai dit ça, il en est fichu. Là.
Pendant sa campagne, elle a réussi à séduire une bonne partie des patrons. Femme de réseau et d'influence, ultra-libérale, elle prône pourtant le dialogue social.
Parce que je me suis imaginé qu'avec la mentalité de tout ce qui se passait dans cette usine-là, si elle, elle était au MEDEF, c'était la porte ouverte à tout, à aux autres sociétés, ils allaient faire comme ici.
Nous prendrons des initiatives pour permettre l'émergence d'un droit du travail modernisé.
Laurence Parisot.
Qui concilie la prise de risque économique et la protection des individus.
Il m'a dit « je vous casserai ». J'ai dit, monsieur, c'est pas vous qui allez diriger ma vie. Vous pouvez diriger mon travail, mais pas ma façon de penser. Je vous casserai.
Madame la MEDEF, comme elle dit, elle a gagné de l'argent là-dessus. Si aujourd'hui, elle est en haut de l'échelle, c'est quand même grâce à de l'argent qui vient de la maison Parisot, quand même, non?
Moi, j'ai de la haine. Ah oui, 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 oui. Il y a des moments où on veut tuer le patron, c'est qu'à deux dire. Hein. Pour eux, le profit, quoi, c'est tout.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis avec François Ruffin, Madame la MEDEF, une histoire de famille. Flight number two, arriving
from... Si je vous montre ça, est-ce que vous avez fait le lien? Donc c'est sorti en 2005, hein. Pour le bonheur de sa fille, donc c'est la une de Paris Match. Pour le bonheur de sa fille, Bernard Arnault, Rochetoy au château d'IQM, prince, star et baron de la finance. Vous savez pas qui c'est Bernard Arnault?
Non.
Vous avez travaillé chez Saint-Père?
Oui. Ouais. J'ai travaillé de 71 jusqu'en 82-83. J'étais mutée à fixe cours chez Boussac-Saint-Frère, puisque la rondelle s'est fermée. Puis après, ben, Boussac-Saint-Frère, fixe cours s'est fermée. On m'a remutée à Siège de France. À Siège de France, ça n'a pas été. J'étais couturière, je me faisais insulter. Enfin, on a fait voir de toutes les couleurs. J'ai fait de la dépression.
Là, c'est Parisot, hein. C'est là où.
Siège de France, hein. Parisot, avant.
Parisot, de la famille Parisot.
Oui.
De Laurence, voilà. Parisot.
Voilà. Les insultes, la cadence inimaginable. Pour aller aux toilettes, il fallait lever son doigt. On n'avait pas le droit de boire un verre d'eau. On n'avait pas le droit de manger un bonbon. On était assis comme ça. Il faisait froid. Il fallait que je travaille avec un manteau avec des bottes pour coudes. C'est pas évident. Hein. Monsieur Bernoul était derrière. À des moments, il nous foutait des trucs du tonnerre. On était là, on tremblait. C'était l'horreur. J'ai vu des couturières de 25 ans de... Enfin, d'activité couturière, non bavées, prendre leur sac et foutre le camp. J'en étais malade. Puis moi, j'ai fait une dépression de 15 mois. J'ai été licenciée.
À cause de Parisot?
Ouais. Et ben, c'était les contre dames qui nous insultaient. J'ai même fait un troisième enfant. Bon, je regrette parce que j'aurais pas dû en faire un troisième, parce que maintenant je l'ai. Hein, comme on dit. Ben, j'ai fait un troisième enfant pour plus pouvoir travailler, pour dire arrêtez de travailler. Puis après, j'ai perdu en dépression, mais j'ai été licenciée en 93, pardon. Mon mari, après quelques mois, il a été licencié. On a perdu notre maison neuve. Puis après, c'était l'enfer. L'enfer.
Une minute cinquante, ce qu'on vient d'entendre, ce témoignage, cette tranche de vie, une minute cinquante, des ouvrières en Picardie, dans le Val de Nièvre ou la vallée de la Nièvre, comme vous voulez. C'est une communauté de communes dans la Somme, non loin donc d'Amiens. Et ce qui marque cette région, cette vallée, c'est l'héritage Saint-Frère. Saint-Frère a été une entreprise énorme dans la région, une de ces entreprises, ces grandes entreprises paternalistes de la fin du 19e siècle, qui a couru tout au long du 20e et qui a modelé et le paysage, et l'économie, et la vie, et les mentalités des habitants de toute cette région. Et puis, Saint-Frère s'est effondré, repris par Boussac, et à nouveau, ça a été la fermeture, ça a été la fin du cycle du textile, comme auparavant les mines, comme la sidérurgie, comme aujourd'hui l'automobile, il semblerait bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on était avec François Ruffin en train de retrouver sur les pas des héroïnes du film Louise Michel. Oui, on voulait rencontrer ces ouvrières qui avaient conçu l'idée de tuer le patron. Et chemin faisant, on venait donc évoquer avec les ouvrières que nous rencontrons Bernard Arnault. Vous savez comment est François Ruffin, il a des idées fixes. Donc il se promène toujours avec son dossier Bernard Arnault, avec les magnifiques images du mariage de la fille de Bernard Arnault. Ça l'enchante François Ruffin, et je crois qu'il est jaloux. Puis ça, vous avez vu sa façon de prononcer Château Yquiem, il y a quelque chose qui montre qu'il n'est pas au parfum vraiment de ce qu'est la haute société dans notre pays. Mais mettons ça de côté. Et voilà que chemin faisant, il tombe sur cette ouvrière qui évoque la famille Parisot. La famille Parisot. Eh bien oui, c'était dans le coin. La famille Parisot, la famille de notre héroïne, Laurence Parisot, eh bien, étaient des industriels dans cette région et fabriquaient des meubles. Ils n'ont pas laissé que des bons souvenirs. Alors ça nous intéresse parce que Laurence Parisot aujourd'hui joue un rôle très très important dans notre pays, sur la scène politique, sur la scène sociale, sur la scène économique. Et il nous a semblé intéressant de revenir un petit peu en arrière sur cette histoire, une des familles les plus riches de France, l'histoire donc de la famille de la sémillante Laurence. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Madame la Medef, une histoire de famille.
Il est interdit d'arrêter de travailler, il est interdit de parler et de chanter,
il est interdit de veillonner de la journée. Lorsque l'on est ouvrière en atelier, le règlement est sévère et l'on doit s'y conformer. Si on était millionnaire, ce serait la liberté, mais on est des ouvrières en atelier. Aucune importance quand on aime, on danse sur un, deux, trois, quatre temps.
Quand on aime, on danse sur un, deux, trois, quatre temps.
Alors il a neigé cette nuit sur la Somme. Les trottoirs de Bertecourt, les dames sont couverts de neige, glissants de verglas. Tous les cantonniers s'activent là, sur les trottoirs pour chasser le verglas et la neige des trottoirs. Et on revient dans le Val de Nièvre parce que en fin d'année dernière, on comptait évoquer la figure de Bernard Arnault. Une dame, Gillette, nous avait raconté son parcours, non pas chez Bernard Arnault, mais chez Parisot. Donc on avait décidé de revenir pour comprendre mieux cette histoire.
Oui.
Bonjour.
Entrez. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes tombé facilement.
Voilà.
C'est facile.
Bonjour.
Hein. Bonjour. Oh, vous êtes gilet, ça glisse pas trop.
Ouais, mais non, il y a besoin de temps.
Gilette alors.
Voilà, ouais, comme les lames à rasoir.
Voilà.
Ben dis donc, Gilette, ouais, c'est le prénom de la dame qu'on vient voir. Et Gilette, vous avez compris, elle a travaillé dans l'entreprise Parisot. Et elle n'en a pas gardé que des bons souvenirs. Alors ça nous intéresse parce que Laurence Parisot se vante toujours, mais toujours n'oublie jamais de dire qu'elle est fille d'industriels, nièce d'industriels, donc elle connaît bien le milieu industriel. Très bien, mais alors on était un peu étonnés. Vous vous souvenez de l'histoire UIMM, non? Non. Vous vous souvenez pas la colère de cette femme en guerre, de cette rebelle qu'est notre Laurence, en apprenant ce que ces gens-là faisaient. Elle était en guerre contre ces messieurs, ces barons de l'industrie, ces patrons d'antan avec leurs chevalières et leurs cigares. Elle était furieuse contre ces gens-là et leur pratique, pas très catholique, comme si soudain elle découvrait tout cela, mais il semblerait bien que c'est un monde qu'elle connaît quand même depuis longtemps. Le témoignage de Gillette.
Tout à fait, mes Saint-Frère. Il y a eu Arondel à Bertecourt, il y a eu Saint-Frère à Saint-Ouen, il y a eu Beauval, il y a eu L'Étoile, il y a eu Fixecourt, et après on m'a muté à Siège de France. C'était Parisot. Et on entendait parler d'un côté gauche. Comment ça se passait, quoi? Je disais, c'est pas possible que ça soit une entreprise comme ça, mais moi je me disais, c'est pas vrai, c'est pas possible. Nous, qu'on était chez Boussac-Saint-Frère, on était bien, quoi. On travaillait, mais on était bien, on était respectés, tout ça.
C'est-à-dire que déjà avant que vous entriez chez Parisot, les gens, ils vous décrivaient un film d'horreur.
Ouais, nous-mêmes, on se disait, on en parlait en copie, on disait, mais c'est pas possible de voir soi, quoi. C'était. Mais quand on y était, là, c'était vraiment affreux. Hein. Pour aller aux toilettes, il fallait lever la main. Pas le droit de parler, pas le droit de manger. Assis à ma machine à coudre, ma tête dans ma machine à coudre, ne pas bouger, ne pas lever la tête, ni à gauche, ni à droite. C'était mon pire emploi. J'ai lavé d'eau à l'époque, hein, parce que j'étais pas loin. Mais j'avais mal au ventre. Hein. J'en ai en diarrhée du stress. Hein. Ah ouais, caché. Et puis, j'étais peine à arriver, je me faisais agresser. Ben, la première, je pouvais pas aller travailler. Hein. Rebelote une feuille. 15 mois comme ça. Pourtant, j'étais pas feignante, j'étais. Mais j'arrivais pas à, comment dire, accepter ce qu'ils nous disaient, quoi. Pour moi, c'était incroyable, quoi.
Tout le monde était traumatisé là-bas. Hein.
Tout le monde, oui.
Tout le monde rentrait pleurait. Comme des bêtes.
On pleurait. Moi, je pleurais. Ben, on était comme ça. Hein.
Comme ça, c'est vos mains qui tremblent là.
Ah, on était. Moi, j'étais comme ça. Je tremblais. Hein. J'étais à une époque quand je faisais la dépression, je pouvais même plus ouvrir une lettre. Tellement j'étais comme ça. J'arrivais plus à ouvrir mon courrier. Je tremblais. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Ah, moi, j'étais pas grosse comme maintenant. Hein. J'étais mec comme un bâton. Hein. Et j'ai fait 15 mois de dépression. Après, j'étais licenciée. Moi, j'étais licenciée en 93. Toi, t'étais licenciée en 94. C'était la dernière. On avait 3 maisons, on n'a plus rien.
Vous aviez 3 maisons?
Puis quand le frigo était vide, que quand mes enfants rentraient, ils disaient « Maman, le frigo, les corps vides. » La honte. Mm-hmm. Je disais « Je peux pas, j'ai pas d'argent. » Mais eux, ils ne veulent pas comprendre. Hein. J'avais rien à donner à manger à mes enfants. Qu'il fallait bien que ça, j'ai un chèque. Pour donner à manger à mes enfants, malgré que j'ai pas d'argent. Hein.
Donc c'était chèque en bois, là?
Oui. Bon, on a vendu, on a remboursé nos dettes, puis bon, on est chez notre fille depuis 3 ans. Vous voyez pas compte, 3 maisons, travailler ma vie, 3 maisons j'ai eues, puis je n'ai plus rien. Je vis chez ma propre fille.
3 maisons, mais c'était pas 3 maisons en même temps, en fait.
Non.
Ah, moi j'ai cru que vous étiez des gros propriétaires.
Non. Oh, j'aurais bien voulu, non. On a travaillé toute nos vies pour se retrouver, ben, sans rien. En vacances, on n'était qu'une fois dans notre vie en vacances. Ouais, à Caen. 5 jours dans notre vie.
À Caen plage.
Ouais. Quand on a vendu notre maison.
C'était dans la Somme encore. Vous n'êtes pas sorti de la Somme.
Non. n'a jamais été plus loin. 5 jours. 5 jours seulement dans une vie. Pas beaucoup. Hein.
Et vous avez gardé une dent contre Parisot, alors ?
Ah oui. Moi, j'ai de la haine. Ah oui, 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 oui. Il y a des moments où on veut tuer le patron, c'est qu'à deux dire. Hein. Pour eux, le profit, quoi, c'est tout. Je plains les gens de là-bas. Ah oui, je les plains. Et quand ils ont fait grève, là, j'étais avec eux. Hein. Ah, j'y allais tous les jours. J'y allais tous les jours. Je dis, tenez bon, tenez bon. J'étais, José Matos, il était même avec nous, hein, parce qu'on y était. Hein. Oui, heureusement, José, il était là. Hein.
Et quand vous entendez, vous voyez qui c'est, Laurence Parisot ?
Oui, patronne des patrons, ouais. Ben, j'en suis malade. C'est ça. J'arrive pas à les encaisser, ces gens-là. Mais voir être comme ça à la télé, puis voir ce que les ouvriers bavent derrière, c'est inadmissible.
Monsieur, ouais. Alors, au revoir, bon courage à vous.
Oui.
Ouais. Vous sortir, elle a le droit ?
Ah ouais, oui, ouais, ouais. Oh, oui. Bah, on va pas rester longtemps.
Ça glisse quand même, non ?
Ouais, ouais, ça glisse bien. Au revoir. Bon, eh bien, puisque Gillette nous a parlé de ce délégué, là, José Matos, eh ben, on va essayer de le rencontrer.
Voilà.
Séance photo obligatoire, campagne pour la présidence du MEDEF oblige, Laurence Parisot n'hésite pas à forcer sa nature plutôt discrète.
France 3, 4 juillet 2005.
C'est avant tout une femme d'ambition. À 45 ans, elle est à la tête de 2 entreprises, mais il en faut plus pour l'effrayer.
Je suis tombée dans l'entreprise comme toute petite, comme Obélix est tombée dans la marmite de potions magiques. Je suis petite fille d'industriel, 4 fois nièce d'industriel.
Héritière d'une des plus riches familles de France, elle ne reprend pas l'entreprise de meubles de ses parents. Elle, c'est dans les sondages qu'elle fera carrière.
Bonjour.
Ouais, bonjour. Salut, ça va ? Voilà. Voilà.
Je travaillais chez Parisot avant José. On avait le droit de rien. Même pas le droit d'aller aux toilettes, pas le droit de parler, pas le droit de manger, ni le casse-croûte. Donc je faisais 8 heures par jour, sans casse-croûte. En rentrant, j'avais déjà 2 enfants, toute seule, puisque mon mari était sur la route. Alors j'ai dit, ben non, moi je peux pas continuer comme ça, il faut que j'ai ma pause de 20 minutes. Non seulement je l'avais pas, mais elle était pas payée.
C'est réglementaire, hein, c'est dans le code du travail, non ?
Ouais. Et ça, on ne l'avait pas. J'ai travaillé plus de 5 ans sans avoir cette pause-là.
Alors, chez Parisot, il ne fallait pas manger ?
Il ne fallait pas manger. De toute façon, on n'avait pas le droit ni de manger, ni de boire, ni de parler, ni de lever la tête. Et même pas aller aux toilettes.
Ouais. Alors, vous aviez des couches ?
Ah ouais, certainement. Mais je vois la femme du directeur, elle allait chercher ses ouvrières dans les toilettes.
Elle regardait en dessous des portes s'il y avait quelqu'un.
Et donc, vous l'avez eu finalement avec post-casse-croûte ?
Je me suis fait rouspéter par le directeur. Plus que rouspéter. Il m'a dit, bon, ben, vous allez travailler sur chaîne. Personne voulait aller sur chaîne. Parce que c'était trop dur, le travail est très, très, très dur. Et ce jour-là, j'étais tellement en colère que je suis allée voir une déléguée qui ne faisait pas partie de l'usine. On a fait une lettre à l'inspection du travail. Et j'ai reçu une lettre comme quoi je ne devais pas changer de poste, que je devais toujours travailler à ma machine et qu'on allait recevoir nos 20 minutes de pause. Mais bon, ça a duré 6 mois. Hein. Au bout de 6 mois, on m'a dit, vous allez en formation sur chaîne.
Ouais. C'est-à-dire que l'inspection du travail, elle disait, vous avez raison, vous ne devez pas être puni et vous aurez 20 minutes de pause. Ouais. Mais de l'autre côté, quand vous étiez dans l'usine, ils ne faisaient pas du tout ce que l'inspection du travail disait et ils continuaient de vous mettre la pression et de vouloir vous envoyer sur chaîne sans vous donner de pause.
Ouais. Et on a eu nos 20 minutes bien 6 mois après. Hein. Et après, bon, ben, suite à ça, je suis allée en formation sur chaîne. Je suis restée presque 1 an.
Donc, vous a puni quand même ?
Ah oui, oui. La pire place sur chaîne, c'est à la colle. C'était avec des solvants et tout ça. On en avait partout. C'est la pire place. Ça sentait énormément, oui. Et je me souviens qu'au début, on avait un liquide. On trempait les mains une seconde dans ce liquide et toute la colle s'en allait.
Oui, c'est ça l'histoire de chez Parisot. C'est que dès qu'il y a quelqu'un qui monte debout du nez, qui demande son dû par rapport au code du travail, ben vous étiez puni, on vous donnait des postes sales, jusqu'à temps que la personne craque.
Mais alors, ça c'est l'usine Parisot.
C'est la Parisot, oui.
Mais vous en avez vu des Parisot ?
Ben, François Parisot, notre patron, il passait tous les jeudis dans l'atelier, sans un mot, sans un regard.
Et vous l'avez jamais vu, le père de Laurence ?
Ah si, plusieurs fois. Hein. Je me demande si elle n'est pas venue, Laurence Parisot. Elle a dû déjà venir, hein, parce que régulièrement, il y avait de la famille Parisot qui venait à l'usine. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'on avait de l'augmentation une fois qu'ils étaient passés. Hein. Parce qu'on avait un salaire Il y a une fille de l'Étoile, elle est venue coupler un matelas pendant ses congés du mois d'août. La contre-dame est allée la chercher chez elle, elle est venue couper le matelas. Elle a eu quoi, une couette? Elle n'a pas été payée de sa journée. Ils avaient une couette pour tout le travail qu'ils fournissaient, ils n'avaient qu'une couette. Et ça leur suffisait, de peur d'être envoyés. Parce qu'ils nous menaçaient de ça. Hein. Moi, le directeur, il m'a dit, si vous n'êtes pas contente, il y en a des mille et des mille à la porte. Hein.
Et c'est vrai que dans le coin, il y en a pas mal à la porte.
Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Alors les gens ont peur, ils avaient peur à cause de ça. Hein. Peur de perdre leur emploi. Hein.
Je vais vous demander de réagir à cette phrase. Donc c'est une phrase de Laurence Parisot. La fille et la nièce de vos patrons. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail.
Ah ben non. Moi, je trouve déjà que c'est tout juste, le code du travail. Et à l'usine, à l'époque, il n'était pas du tout appliqué. Parce que même le plus simple, vous voyez bien les casse-croûtes, il n'était pas appliqué. Quand il fallait faire des heures supplémentaires, on ne demandait pas l'avis des ouvriers. Hein. D'ailleurs, je suis très heureuse de ne plus travailler là-bas.
Notre patron sur un grand cheval entre par la porte monumentale. Une rumeur parcourt la foule, les investisseurs crient de joie. Les têtes tranchées des concurrents sont exposées sur des pics, tenues par des employés payés au SMIC. Le patron s'est mis sur le côté pour mieux apprécier le défilé. C'est au tour des lieutenants juchés sur des éléphants. Et voici des secrétaires sur des ordinateurs super puissants qui font vrombir des imprimantes. Et les segments de marché ferment la marche dans leurs costumes multicolores. C'est le triomphe du capital, notre patron sur un grand cheval se dit qu'il a fait du bon travail. Il nous fait savoir que tous nos sacrifices ont permis que la courbe grandisse.
Écoutez, moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand Nicolas Sarkozy dit qu'il aime les usines.
Laurence Parisot. Oui.
Je trouve ça formidable.
Oui.
Moi aussi j'aime les usines.
Oui.
J'ai vécu au milieu d'une usine pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et je trouve important de marquer fortement, symboliquement, l'importance de l'industrie en France de cette façon-là.
Voilà, c'est bien ce qu'elle disait, elle est tombée dedans étant petite. Et dans un livre étonnant qui s'appelle Laurence Parisot, Une femme en guerre, de Fanny Guinochet, un livre très élogieux pour Laurence Parisot, il est quand même fait mention à travers plusieurs pages de ce qu'était l'usine, ce milieu industriel dans lequel Laurence Parisot est tombée quand elle était petite, c'était quand même pas du gâteau. C'était quand même pas du gâteau. On disait aux enfants, quand ils étaient petits, si tu continues comme ça, tu iras travailler chez Parisot. Hein, c'est des gens qui se souviennent de ça. Dans la région, il était tout à fait courant de travailler bien plus que 40 heures par semaine. Les conditions étaient très, très dures, très, très cassantes. Évidemment, tous ceux qui s'aventuraient à essayer de faire du syndicalisme et ce genre de choses étaient brimés et voire virés d'une façon ou d'une autre. Et à la différence de ce à quoi les gens de la région avaient été habitués, c'est-à-dire au capitalisme paternaliste de Saint-Frère, on naissait Saint-Frère, on mourait Saint-Frère, on allait à l'école Saint-Frère, les colonies de vacances Saint-Frère, etc. Eh bien, le groupe Parisot n'avait rien d'une entreprise paternaliste. Il ne finançait ni hôpital, ni école, ni équipe de foot. Bref, c'était plutôt du rail. Alors, évidemment, Laurence Parisot n'est que la fille de ces gens-là et de ce monde-là. Mais enfin, elle s'y réfère très souvent. Et très souvent, elle en fait l'éloge. Alors, voilà quelques témoignages de ceux qui ont vécu dans ces entreprises, qui y ont travaillé et qui y ont souffert pour certains et qui y ont lutté, comme José Matos.
Bonjour, papa. Ça va, Pierre? Bonjour, ma mère. Un bisou.
Fais-moi un petit bisou.
Vous avez pris la relève 5 ans plus tard, 5 ans après votre épouse. Vous avez pris la relève chez Parisot.
Je roulais en location depuis 2 ans pour Parisot.
Et donc vous faisiez quoi? Vous preniez des meubles à l'usine ici?
Et j'allais les livrer dans les Kofu et But et Fly, bien sûr. Très vite, je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans, qu'ils ne voulaient pas me payer mes heures supplémentaires. De ce fait-là, on s'est retrouvé au prud'homme pour demander le paiement de mes heures supplémentaires.
tout de suite après est venu le temps de la répression. J'étais devenu délégué syndical entre-temps, hein, depuis le mois de mai.
Mais c'est pas très gentil de devenir délégué syndical quand même, pour le patron, c'est pas un signe de confiance.
Mais c'est pas un signe de confiance, et il n'y a pas que ça, c'est que, en plus, quand je commençais à titiller sur les non-respects de la convention collective, on m'a rejeté à plusieurs fois la figure, de toute façon vous savez pas lire, puis là c'est là où j'ai dit, ah bon je sais pas lire, ben vous allez savoir que je sais lire. Et puis c'est comme ça, malgré tous les matraquages que j'ai eu des licenciements, 5 fois réintégrés.
Et vous ont licencié 5 fois?
Par les Parisos, 4 fois, oui.
Donc par les Parisos, vous avez été licencié 4 fois. Et réintégré soit par l'inspection du travail, soit par les tribunaux.
Tribunaux, 4 fois.
4 fois.
En pas longtemps, en 4 ans.
4 fois en 4 ans, licencié 4 fois en 4 ans. Et avant, quand vous n'y étiez pas délégué syndical, vous avez été licencié combien de fois?
Ah non, zéro, j'ai jamais été licencié.
Moi, je viens vous voir aussi parce que je me demande si, en un sens, Laurence Parisot, c'est pas une héritière. C'est-à-dire, c'est une héritière déjà sur le plan financier, puisque, vous savez, elle a eu une boîte de sondage, l'IFOP, qui a été rachetée au départ, puisque c'était 41% de capitaux de son père. Donc, elle a eu la majorité à l'IFOP grâce aux meubles Parisot. Et donc, ça, une héritière financière, mais aussi une héritière morale. C'est-à-dire que, quand on lit des choses sur Parisot ou quand on vous écoute, on voit que, bon, le code du travail, ça compte pas tellement. La précarité dans l'entreprise...
C'est énorme. Oh oui, c'est énorme.
Et donc, je me demande si c'est pas une héritière aussi morale quand elle dit « la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail ». On a le sentiment que c'est... Enfin, que c'est elle qui le pense, mais que c'est quand même un héritage familial.
Elle peut en parler comme ça, puisque c'est ce que pratique de toute sa famille, dans toutes ses usines. Le code du travail, on s'en balance, on fait un code de travail à soi. C'est un code de travail à eux qui est chez nous. Il n'y a jamais un code du travail, le vrai code du travail. Donc, le code de travail à eux, ils suppriment des pages. Et le code du travail chez eux, il y en a un. Mais ce n'est pas celui qui est applicable dans toutes les entreprises. Si, en Roumanie. En Roumanie, ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, la Roumanie est en train de se révolter, hein, contre les méthodes de paiement de salaire de Paris.
Ils sont partis en Roumanie, alors?
Oui, on travaillait pour eux, nous, à Bertecourt. Hein.
Une chef à la couture, elle est allée travailler là-bas. Pour apprendre aux filles là-bas, en Roumanie, à travailler comme nous. Des gens de l'entretien qui allaient monter des machines là-bas, des machines à coudre. Ils ont trouvé que la main-d'œuvre était moins chère là-bas. Alors, ils nous ont rien dit, puis ils ont décolonisé là-bas.
Et donc, au fur et à mesure qu'on faisait du travail en Roumanie, on en faisait moins ici?
Voilà. Après, on a diminué notre production. C'est là où a commencé les difficultés.
On a eu, en 2006, 183 licenciements. Et en 2007, quand j'étais présent, 106 licenciements. Et les gens sont partis avec uniquement 500 euros de formation. 500 euros dans un groupe Pariso. Pas une prime pour licenciement économique, rien. Rien du tout. Juste les congés payés et les 2 mois de préavis. C'est honteux. C'est honteux.
Le minimum légal, alors?
Le minimum légal. Sans prime. Alors qu'il a gagné de l'argent, quand même, Pariso. Madame Lamedef, comme elle dit, elle a gagné de l'argent là-dessus. Si aujourd'hui, elle est en haut de l'échelle, c'est quand même grâce à de l'argent qui vient de la maison Parisot, quand même, non ?
Laurent, c'est à vous.
Une entrée en fanfare dans la campagne présidentielle.
France 2, 25 janvier 2007.
Près de 6 000 chefs d'entreprise réunis dans la grande salle du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Tous venus voir le show de leur présidente, Laurence Parisot.
Il y a 1600 heures. Le salarié anglais.
Seul sur scène, devant un écran géant, un show à l'américaine pour dresser un tableau de l'économie française. Trop de prélèvements obligatoires, trop de chômage, pas assez de croissance et pas assez de souplesse. Son livre blanc intitulé « Besoin d'air » propose des solutions avec un leitmotiv.
Un peu plus de liberté, un peu plus d'air et tout ira mieux tout de suite en France.
Ouais. On me disait que puis d'un coup la direction on a dit putain,
le jour qu'on vous a embauché, quelle connerie on a fait. Ah mais ça, il fallait réfléchir. c'est ce que la direction me disait toujours, quoi. Les jours qu'ils ont été me chercher, qu'est-ce qu'ils ont fait comme connerie, pas ça, mais il faut réfléchir. Et je vois pas parce que vous avez fait une connerie. C'est vous qui respectez pas le code du travail, c'est pas moi. Moi je respecte mon boulot, je fais bien mon boulot, moi là. Elle est froide. Elle est froide. Hein. Elle a froid, c'est que notre.
Elle a froid, c'est piston.
Mais... Ben
Mais là, il y a eu, la semaine dernière, une annonce en comité d'entreprise, 22 licenciements sur un effectif de 100, 25% presque. Hein. Comme ça, d'un seul coup, on a baisse de travail. Après avoir renvoyé les 30 intérims qu'on avait, ben, maintenant, il faut toucher dans les CDI, voilà, comme ça. D'un seul coup.
Excusez-moi, je me présente, je suis madame Ramos Agnès.
Non, la bigame. Ça va?
Oh, Disney, m'a dit, ça fait 10 minutes que je suis à la porte. Là.
Moi, j'ai été là 20 ans. Donc, je suis arrivée, c'était quasiment... Ça venait de s'ouvrir.
Tu venais de Boussac, toi, de toute façon.
Oui. Et c'est vrai que lorsqu'on est rentré, la première impression que vous avez, on a cette oppression quand vous rentrez dans l'atelier. Je me suis sentie oppressée de voir tous ces gens qui n'avaient pas le droit de parler, qui n'avaient le droit de rien faire, sauf de travailler. C'est oppressant, vous savez. On n'avait même pas le droit de mâcher du chewing-gum et de mettre une casquette à cette époque-là. À Boussac-Saint-Frère, les gens étaient plus détendus. Moi, j'allais travailler, j'étais gaie, j'étais contente d'aller travailler, j'allais à mon travail, même si ce n'est pas ce que j'aurais choisi au départ, mais il faut faire avec. Quand je suis entrée là, cette froideur, les gens qui ne sourient pas, les gens qui ne levaient pas la tête, on aurait dit qu'on était dans un climat de peur, en fait. Ça doit être ça, la peur. La peur. Je ne sais pas comment vous expliquer, je l'ai ressenti physiquement.
Sur le compteur de la voiture, c'est marqué qu'il fait 1 degré dehors. Donc, on est à l'intérieur de la Safarane de José, devant l'usine, où il y a marqué CFDT qui est tagué là, sur le mur de l'usine.
Je suis à l'origine de la première grève, hein, José. C'était un événement parce que les gens ne croyaient pas qu'on était en grève. Ils ne croyaient pas. Ils ont dit « c'est pas possible, les sièges de France, ils ne font jamais grève ». Surtout que M. Bernoul avait dit qu'il ne ferait jamais grève dans son usine. Eh bien si, tout arrive. C'est obligé. Puis après tout ça, ça m'a collé à la peau. Ils m'ont mis dans un trou à rats, là-bas, tout au bout de l'usine, dans un petit atelier à José, où il n'y avait pas de confort. C'était vraiment un trou à rats.
Comme vous aviez fait grève, comme vous étiez syndiqué, il vous a mis à part,
voilà.
Comme un peu une pestiférée, pour pas que vous contaminiez le reste des
voilà.
Ouvriers.
Et oui, ils ont vu que j'avais... Alors, ils ne pouvaient pas me laisser dans l'atelier, en fait. Là, ça a été pire. Hein. Moi, il m'a menacé ouvertement, parce que je soutenais José. Hein ? Il m'a dit « je vous casserai si vous continuez de fréquenter M. Matos ». J'ai dit « monsieur, ce n'est pas vous qui allez diriger ma vie. Vous pouvez diriger mon travail, mais pas ma façon de penser. Je vous casserai ».
Et quand vous entendez à la radio Laurence Parisot qui dit...
J'ai appris qu'elle était la présidente du MEDEF.
Ça ne me donne pas.
Ah, j'ai dit « ça y est, on est fichu. Là, ça va être de pire en pire ». C'était ma première réaction. Je dis, oh ben alors là, on est fichu. Ah ouais, oui. Parisot, mais
moi,
oh là, pourquoi c'est la fin des haricots.
Pourquoi?
Parce que je me suis imaginé qu'avec la mentalité de tout ce qui se passait dans cette usine-là, si elle était au MEDEF, alors là, c'était la porte ouverte à tout, aux autres sociétés, ils allaient faire comme ici. C'est ce que je me suis dit. Oh, j'ai dit, alors là, on est fichu.
Voilà, une série de témoignages quand même assez étonnants. On n'avait jamais entendu parler de cet aspect des choses. Et on peut dire de l'origine intellectuelle, l'origine idéologique aussi de Madame Medef. On continue avec nos amis.
La veille, on avait une réunion de CE et on m'annonçait la vente du camion jaune, c'est-à-dire l'outil de travail. Et
là, c'était pas un licenciement.
Non, mais c'était une proposition de reclassement inadmissible, puisqu'il fallait que je fasse agent d'entretien, tondre les pelouses, déboucher les toilettes, monter sur le toit pour réparer le toit, couper l'herbe, divers travaux de maçonnerie.
Alors que vous n'êtes même pas français. Vous êtes portugais et vous refusez d'aller déboucher les toilettes, d'aller tondre la pelouse, d'aller réparer les toits, de faire l'agent d'entretien. Pourtant, normalement, si vous êtes portugais, c'est...
C'est pas que le travail me dérangeait, c'est la méthode. Moi, je me suis battu avec mes armes. Donc, j'étais chercher mon camion. Il était 11h, 10h30, 11h. Et puis, je l'ai avancé ici, je contrôlais l'usine. Là. C'est un camion remorque, donc je l'ai cassé en T. Puis, je me suis mis là devant.
Vous avez bloqué l'usine à vous tout seul. Vous avez mis le camion en travers. Il n'y a plus de voiture qui pouvait rentrer, plus de voiture qui pouvait sortir.
Non. D'ailleurs, les cadres, ils ont été mangés à midi à pied. Hein. Et puis, à un moment donné, vers 11h, 11h30, le directeur, M. de France, a fait venir une grue, qu'il a payé 8000 francs pour sa venue, pour débarrasser le camion par voie des lingues. C'est-à-dire le soulever et le remettre droit, de façon à pouvoir passer. Et quand j'ai vu la grue, j'ai dit au gars, qu'est-ce que tu viens faire quoi, toi? Je viens enlever un camion qui gêne. Et je dis, ah bon, quel camion? Je pense que celui-là. Ah bon? Pas de problème.
Je me suis mis en dessous du châssis. Alors le directeur, il est venu, il fait « Monsieur, vous enlevez le camion ?» Et le gars, il dit « Ben non, monsieur, je ne peux pas toucher au camion. » Il dit « Comment ça, vous ne pouvez pas toucher au camion ?»« Ben non, il y a le monsieur en dessous, je ne peux pas y toucher le camion. » « Je vous ordonne d'enlever le camion !» Et il dit « Non, je suis désolé, je range le matériel, je m'en vais. »« Mais je ne vous paierai pas. »« Oh, ben ça, vous verrez avec mon patron. » Et la grue, elle est partie. Et c'est l'inspecteur du travail qui est venu et qui a discuté avec l'employeur. On a trouvé un accord. Ils sont engagés à me donner un autre poste de même qualification. Puis finalement, ça a été que des menteurs. Ils m'ont remis dans le même poste, agent d'entretien, débouché les toilettes et ainsi de suite.
Devant l'inspection du travail, pendant que vous étiez en dessous le camion, ils s'étaient engagés à vous donner un poste correct et finalement, ils vous ont rien donné.
Non, rien du tout. J'ai été pendant un an et demi sans avoir de travail. Ouais,
vous avez appris à jouer au bridge ou...
Et j'ai appris surtout à ouvrir le corps du travail plus souvent.
Donc finalement, ils vous ont payé un an et demi de formation, d'études.
D'études syndicales.
Ils n'ont jamais eu un délégué qui a tenu tête comme ça, d'une façon si forte. Il fallait qu'ils se débarrassent de lui. D'une manière ou d'une autre, il était gênant.
Et vous avez senti la différence quand José Matos est arrivé? Il y a eu...
On a senti la différence quand il n'était plus là. C'est ça surtout que les gens ils disaient « Oh là là, maintenant que José n'est plus là, c'est fini, ça va redevenir comme avant. »
C'est-à-dire ça va redevenir...
Là qu'il est revenu, ben d'ailleurs ça s'est déjà vu là quand il est revenu, ils ont touché combien de...
Ils ont touché leurs parlementaires, ils ont touché le repos compensateur, et puis 2000 euros pour les départs.
Alors que nous, quand on a été licenciés, on n'a rien eu. Il n'y a plus personne pour nous défendre.
Bien, Laurence Parisi, on va prendre les auditeurs d'RMC avec Emma Strack. Emma.
Et avec cette question de François, pour commencer, des salariés vont jusqu'à se suicider parce qu'ils ne supportent plus la pression que leur impose leur travail.
RMC, 21 février 2008.
Que proposez-vous pour éviter ces situations dramatiques?
Les suicides
au travail
c'est absolument affreux. Alors, c'est pas facile à dire ce que je vais dire, mais même si ça se passe sur le lieu de travail, ce n'est pas toujours lié à des facteurs liés au travail.
Professionnel. Bon.
C'est pas froid quand on est bien couvert, on peut pas. Des gens qui se sont suicidés ici.
Vous dites ?
Il y a des gens qui se sont suicidés ici.
On est rue François Parisot, devant l'usine Parisot, à Berthaucourt.
On a eu un gars qui travaillait avec nous, s'est suicidé. Il était persécuté par le chef d'atelier. Puis un ces jours, il nous a dit, moi je le connaissais bien. Un jour, il a dit, je vais me pendre. Je lui dis pas ça. Tu dis pas ça, tu dis ça parce que tu es fatigué. Je dis, ça va s'arranger. Il me dit, non, j'en ai marre de cette usine, je peux plus. En fait, la veille, il l'avait dit, puis on lui a dit « Oh, tais-toi, dis pas ça hein, à la cantine, tu te souviens ?» Puis le lendemain, il était bien pendu. Et eux, ils peuvent dire que c'est de leur faute, que ce monsieur-là
était pendu. Puis il y a le jeune handicapé, là-bas, du côté de Gorge, là, qui travaillait ici handicapé.
Il était courageux
et tout, mais il voulait absolument garder son emploi. Ils l'ont licencié de l'emploi social. Et le gamin, il s'est suicidé à sa maison. Il venait travailler en scooter. Il avait la jambe qui... Et il portait du dos, tirait les chariots de 500 kilos et tout.
Et des dépressions, il y a eu...
Dites donc. C'était toutes les semaines qu'il tombait comme des mouches. Les femmes surtout, hein. Puis à la couture aussi.
Moi, je me rappellerai toujours d'un passage. Une femme qui est arrivée en retard à son travail et le chef lui dit « Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu arrives en retard ?»« Oui, mais j'ai mon gamin qui est malade. »« Mais ton gamin, t'as qu'à l'attacher au radiateur. » Et puis c'est tout. Non, mais attendez, des réponses comme ça, mais c'est affreux. C'est affreux. C'est honteux de parler comme ça des gens. C'est des chiens.
Il y a les petites jumelles aussi. Comment que c'était leur nom de jumelles? Il y en a une des deux qui a voulu se tuer aussi, qui a voulu se suicider, mais elle s'en est sortie.
Elle s'en est sortie, mais je ne sais plus son nom.
Mais Laurence Parisot, elle dit les gens se suicident au travail, mais c'est pas toujours lié.
C'est qu'elle vient de me le dire. Moi, je vais lui expliquer si c'est pas lié au travail.
On va lui faire pas mal de
cas. Ce qui s'est passé ici, c'est lié au travail. Ah, si, ça c'est sûr.
Réenchanter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver une capacité d'émerveillement, une capacité d'enthousiasme, une curiosité, une gourmandise.
Laurence Parisot, France Inter, 30 septembre 2005.
Tous ces éléments moteurs qui peuvent nous permettre à aller de l'avant, vers l'avenir.
Bon bah voilà, il s'agit de réenchanter, mais le conte de fées est déjà terminé. Parce qu'on a tourné et diffusé ce reportage il y a seulement un an, mais parfois les choses vont vite, puisque l'usine a fermé en juillet dernier. Alors moi j'y suis retourné 4 ou 5 fois, d'abord parce qu'il y a eu une occupation par les salariés, ensuite lors de la vente aux enchères aussi. Là, il y avait des bureaux, des ordinateurs, des machines, des stocks de bois qui partaient pour quelques euros. Dans la salle, il y avait des cadres du groupe Parizeau, le directeur de Parizeau en Roumanie notamment, qui a racheté quelques affaires. Et puis au fond de la salle, lors de cette vente aux enchères, il y avait les salariés avec des larmes aux yeux qui n'osaient pas bouger parce qu'on les avait menacés de 3000 euros d'amende s'ils faisaient obstruction à la vente. Donc ils se taisaient et regardaient partir le matériel. Après la vente aux enchères, on a continué à aller rencontrer José Matos et ses amis à la salle Saint-Joseph, à Flic-Secours, où ils se retrouvent parce qu'ils ont monté des dossiers ensemble pour porter plainte contre l'ancien employeur. Donc ils se retrouvent régulièrement le samedi après-midi, salle Saint-Joseph, avec le chien, je ne me souviens plus de son nom, que les salariés ont offert à leur délégué syndical parce qu'ils estimaient qu'ils l'avaient bien défendu. Et donc là, il doit y avoir 150 dossiers qui sont montés pour poursuivre l'ancien employeur. Alors on va appeler José. La plupart des salariés n'ont pas retrouvé de boulot. Et José Matos, lui, est en formation en Bretagne. Il part le lundi, il revient le vendredi. Voilà, il a la cinquantaine et il passe sa semaine loin de sa femme.
Oui, allô?
Ouais, José, c'est François. Qu'est-ce que tu fais dans ta formation, là?
J'ai un CAP de mécanique et on m'a envoyé un centre AFPA à Coutances, dans la Manche. Tout est payé de ma poche depuis le début de la formation, le 8 février. Et le Pôle emploi, pour l'instant, n'arrive pas à me donner une subvention de déplacement, alors que ça me coûte quand même 600 euros par mois de mon salaire de chômage.
Là, comme chez les Continental, ils ont obtenu, je ne sais plus, au moins 50 000 euros de leur employeur. Chez Total, on voit bien qu'il y a des négociations, que ça va tourner à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, vous avez en face Parizeau. Vous avez dû réussir à récolter un max.
Ouais, non, malheureusement non, puisque Parizeau a été très malin. La dame du BDF, on s'est retrouvé isolé du groupe Parizeau, c'est-à-dire que c'est un groupe de cadres qui a racheté l'entreprise en 2007.
C'est-à-dire que finalement, ils ont sorti la manufacture du siège à Berthaucourt, a été revendue à des cadres extérieurs. Et du coup, au moment où ils ont fermé la boîte, ils ont pu dire « Ah ben nous, on n'a pas un rond, on n'est pas les Parizeau ».
Tout à fait.
Je disais Total, Continental, Goodyear et ainsi de suite, ça chiffre en dizaines de milliers d'euros. Vous, combien vous avez obtenu?
Nous, on n'a rien obtenu. Et notamment, ils n'ont donné que 177 euros de plan social aux salariés pour leur formation. 177 euros. Ça ne devrait pas être permis ni légal.
Donc là, au départ, l'usine Parizeau, quand elle s'est installée, elle avait reçu 60 millions de francs, parce que c'était en francs à l'époque, d'aide.
Oui, c'est.
Et quand elle repart, elle laisse 177 euros par salarié pour le reclassement.
Tout à fait. Parizeau, il a bien monté son affaire. Et...
Quand tu rentres de formation le week-end, pour pas t'ennuyer, vous organisez des réunions salle Saint-Joseph à Flic-Secours. Il y a combien de salariés?
Dossier pour devant le tribunal, on en a 156. Devant le tribunal de prud'homme d'Amiens, on passe le, me semble, 13 juin. Et on porte plainte, bien sûr, contre insuffisance du PSE. Et le lien qu'il y a avec le groupe Parizeau, et on demandera des dommages intérêts au groupe Parizeau.
Très bien, donc rendez-vous le 13 juin au soir, alors c'est ça.
Ciao. Salut, au revoir.
Je me souviens quand on a quitté la vente aux enchères le soir, on est repassé, on a retraversé donc toute l'usine, la cour de l'usine, où il y avait eu des centaines, des milliers de salariés qui étaient passés, où il y avait eu des déchargements de camions, ou qui avaient dû résonner du bruit des machines, des scies. Et là, il n'y avait plus de bruit du tout. Il n'y avait plus que le petit ruisseau, la Nièvre, qui coule au milieu de l'usine. Il n'y avait plus que ça qu'on entendait. Au fond de l'usine, qui est une très grande usine, au fond, il y a un bâtiment de briques rouges avec marqué au sommet Arondelle 1870. Et ben voilà, on pouvait ajouter un trait d'union avec marqué 2009. Mais les Parizeau étaient toujours 414e fortune de France, malgré la fermeture de leur usine, ou grâce à la fermeture de cette usine. Et Laurence Parizeau pouvait continuer à réenchanter le monde.
C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Gillette, Agnès, José Matos et Catherine Thierry. À lire. Enquête sur le patronat dans les coulisses du scandale MEDEF UI.